Caroline Toussaint.
Bonjour, c'est le grand jour pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace. Elle affronte le Canada ce soir à 19h15 en demi-finale des Mondiaux à Copenhague. Présentation de ce match dans quelques instants. C'est également le grand jour pour la famille royale britannique. Le prince Harry va épouser Meghan Markle très bientôt. Ce mariage fait la une de la plupart des médias. On parle d'engouement généralisé. Nous tenterons de comprendre dans ce journal pourquoi cette union fascine autant. Si la matinée a été globalement ensoleillée, les nuages se formeront dès cet après-midi, engendrant des orages parfois violents. Côté température, on prévoit 21 degrés en plaine et 16 à 1000 mètres. Tous les regards des amateurs de hockey sur glace seront braqués sur Copenhague ce soir. L'équipe de Suisse affronte le Canada à 19h15 en demi-finale des championnats du monde au Danemark. Deux jours après avoir éliminé la Finlande, les Helvètes croiseront donc les crosses avec des Canadiens qui partiront avec les faveurs de la côte. Même si la tâche s'annonce compliquée pour la troupe de Patrick Fischer, elle a regardé depuis le début du tournoi les grandes nations, les yeux dans les yeux, ceci grâce à un jeu décomplexé. Benoît Pont est le coach vidéo de l'équipe de Suisse. Depuis 8 ans, il revient sur le changement de mentalité au sein du hockey helvétique.
Je crois que le hockey suisse s'est beaucoup développé les 15 dernières années. Au début, on se défendait. Maintenant, on est entreprenant sur la glace. On a appris aussi des meilleures nations du hockey. On a des joueurs qui évoluent à l'étranger dans les meilleures nations du hockey. Et on a mis tout ça ensemble pour finalement jouer 60 minutes très solides contre la Finlande et obtenir cette belle qualification.
Dans des championnats du monde, dans des grandes compétitions, on a encore l'image souvent de cette équipe de Suisse, très recroquevillée quand même, puis tentée de piquer sur des contre-attaques. C'est définitivement terminé ça pour le hockey suisse?
C'est toujours un bon moyen de gagner, de jouer juste, de se défendre, mais c'est clair qu'aujourd'hui il faut faire plus. On a le jeu pour le faire, on a les joueurs pour le faire, on a la tactique pour le faire. On affronte chaque fois des adversaires qui sont extrêmement bons et qui sont souvent plus qualifiés que nous.
Cette métamorphose helvétique s'explique pour deux raisons. D'une part, l'apport des joueurs de NHL, à l'instar des Josie, Niederreiter, Fiala ou Meyer. D'autre part, l'influence du sélectionneur Patrick Fischer qui prône et inculque à son équipe un jeu tourné vers l'offensive. On retrouve Benoît Pont.
Je pense que c'est important de montrer que le coaching staff, notamment Patrick Fischer, y croit et qu'il est rassurant, qu'il sait qu'on joue contre des grosses équipes. On va jouer le Canada, leur 13e joueur surnuméraire, et Berley, il gagne 6 millions de dollars. Donc on aimerait bien, nous, avoir des 13e joueurs comme ça. Mais c'est important de montrer que cette équipe, elle peut battre le Canada sur un match qu'on peut très bien gagner et donner cette confiance aux joueurs. En fait, un coach, il essaie d'agrandir ses joueurs, de les faire plus grands qu'ils sont vraiment.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Mathieu Germanier. Suisse-Canada, demi-finale des Mondiaux de hockey sur glace, c'est donc ce soir à 19h15 à Copenhague. L'autre demi-finale opposera la Suède aux États-Unis à 15h15 et vous retrouverez le reste de l'actualité sportive après ce journal. On revient dans le Jura. Les deux schistes ont rendez-vous ce week-end au Mont de Queuve. Le club de chevaux Jura organise la 47e rencontre nationale suisse pour les fans de ces voitures mythiques. Jusqu'à lundi, les passionnés de deux chevaux vibreront en nageoire au rythme des moteurs. Le public peut également se rendre au Mont de Queuve pour découvrir différents modèles. L'occasion également de fêter les 20 ans d'existence du club de chevaux Jura. Le Golden Gate, le viaduc de Chillon ou encore les passerelles de Delémont-Marée-Basse à l'exposition Un pont, c'est tout, qui se tient actuellement au musée jurassien d'art et d'histoire, on voit de tout en matière d'édifices. Initiée par la section Jura-Bernois de la SIA, la Société Suisse des Ingénieurs, cette exposition a été créée par la SIAVO. Elle se base sur un livre, Ingénieuse Eugénie, l'histoire d'une petite fille qui veut construire un pont pour rejoindre une île mystérieuse. Mais c'est bien d'ouvrages tout à fait réels dont on parle dans l'exposition Un pont, c'est tout. En expliquant comment sont construits les ponts qu'on emprunte quotidiennement, les jeunes visiteurs sont plus à même de comprendre les enjeux de leur construction.
Ça leur donne une autre dimension, hein, ces ouvrages aujourd'hui qui sont purement fonctionnels, sur lesquels on se déplace. Bien, derrière, il y a un grand travail d'abord conceptuel, et puis une phase de calcul, de dimensionnement, pour finalement avoir la construction de cet ouvrage et sa mise en service, son utilisation. Puis un ouvrage, il est fait pour être utilisé. Mais c'est vrai que c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière, puis de voir toutes les phases qui ont permis d'aboutir à ces ouvrages d'art qui sont, pour certains, vraiment magnifiques, qui marquent le paysage.
L'exposition est visible jusqu'au 27 mai au Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. À l'international maintenant, les États-Unis à nouveau sous le choc d'une fusillade dans un établissement scolaire. Un élève a été arrêté hier après avoir abattu 10 personnes et blessé 10 autres dans son lycée de Santa Fe au Texas. Le tireur de 17 ans est actuellement interrogé par la justice. Il a été inculpé pour meurtre, un crime passible de la peine de mort au Texas. Des informations trouvées dans l'ordinateur et dans le téléphone du tireur ont permis d'établir qu'il prévoyait de se suicider après l'attaque. C'est ce qu'a précisé le gouverneur républicain du Texas. Un deuil national de 2 jours à Cuba. Un accident d'un avion de ligne a fait 107 morts hier dans le pays. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Le Boeing s'est écrasé hier à la mi-journée sur une zone inhabitée alors qu'il venait de décoller de la Havane. Seules 3 personnes ont survécu. Elles se trouvent actuellement dans un état critique.
Le magazine.
C'est le Big Day, le grand jour. Le prince Harry et Meghan Markle se marient aujourd'hui au Royaume-Uni. La plupart des invités sont déjà arrivés à la chapelle Saint-Georges et c'est au tour de la famille royale de faire son entrée. La cérémonie devrait commencer à 13h, heure suisse. Des milliers de Britanniques suivent ces noces avec attention et les médias sont présents en nombre pour relater tous les détails de cette journée. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que cet événement fait la une des journaux. Si la vie de la famille royale britannique a toujours fasciné les médias et le public, l'engouement est d'autant plus important ce jour de mariage. Annick Dubié, directrice de l'Académie du journalisme de Neuchâtel et spécialiste en journalisme populaire, nous explique ce que ce mariage représente pour les médias.
Il conjugue 2 dimensions du people. Le people qui a trait à la royauté, qui est un people un peu spécifique, qui fonctionne selon des codes propres, et puis le people en général. Et il se trouve que la promise, Madame Markle, venait au fond de la célébrité classique. Elle est toujours actrice, et donc vivait plutôt dans le monde du people général, ordinaire, dans lequel à la fois on montre des morceaux concédés de la vie privée, et puis d'autres morceaux qui n'ont pas été concédés ou qui n'ont pas été prévus pour être transmis au grand public. Et ce courant-là rencontre l'autre, c'est-à-dire un people beaucoup plus policé, beaucoup plus régulé, dans lequel on ne montre pas n'importe quoi. Et lorsqu'on le fait, ça provoque un certain nombre de problèmes. On avait vu ça avec la photo topless de la duchesse de Cambridge il y a quelques années, qui était tout à fait en dehors de ce qu'on faisait habituellement dans ce type de couverture people royale, entre guillemets. Et donc là, ce qu'on observe dans les médias, dans le phénomène médiatique, c'est que les deux courants se rejoignent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Harry qui relève du people royal et de l'autre côté Meghan qui, elle, relève du people classique, du people hollywoodien, de ce people qui d'emblée avait été conçu comme un people à la fois concédé et transgressif.
Et pendant la cérémonie même, est-ce que vous pensez qu'on verra un clash entre la famille de Madame Markle et la famille royale ?
On a déjà vu dans les annonces du mariage toute une série de clashs entre des traditions de part et d'autre. Des traditions qui veulent que le père de la mariée la conduise à l'hôtel, des traditions qui veulent qu'on porte des robes en dessous du genou, qu'on porte des chapeaux et ainsi de suite. Donc toute une série de passages obligés qui ne sont évidemment pas partagés par tous, d'autant plus qu'on est, comme je vous l'ai dit, dans des registres people différents. Et donc on a déjà vu s'annoncer ces formes-là de contradictions ou de besoin de faire le lien entre des traditions. Mais ça, je crois que c'est le cas de tous les mariages. Simplement, dans celui-là, c'est un petit peu plus visible et un petit peu plus net, puisque le système dans lequel s'insère l'outsider, c'est-à-dire Meghan et une partie de sa famille, est un système extrêmement codé, extrêmement lourd et surtout visible en tout et pour tout, en tout cas dans cette partie-là de son expression. C'est-à-dire que autant il y a des choses des royales qu'on ne voit jamais ou qui sont cachées, autant il y a des événements, notamment les mariages, où on voit tout, où tout est codé, ou en tout cas on doit voir une série de choses et on ne peut pas déroger à ce type de tradition et de rituel qui remonte bien au-delà de l'invention du star system, qui remonte à la mise en scène de la royauté, à son exhibition et au rituel qu'elle donne toujours à voir.
Une question très people. Pendant le mariage de Kate et William, il y a Pippa Middleton qui a un peu volé la vedette à la mariée grâce à sa robe. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs qui pourraient voler la vedette à Harry et Meghan ?
Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. À l'évidence, la royauté y a réfléchi puisqu'elle a décrété, sauf erreur, que le dernier né de Kate et William, qui s'appelle Louis, sauf erreur, ne serait pas de la partie parce qu'il risquait justement de voler la vedette aux mariés. Au-delà de ça, ce que vous évoquez dans le mariage précédent n'était pas pas du tout prévu, était plutôt un concours de circonstances qui n'était vraisemblablement pas planifié, ni voulu, ni même difficilement prévisible, disons. Difficile de le dire. En principe, ce genre de rituel est extrêmement codé, extrêmement préparé et prévient les surprises, parce que les surprises ne font pas partie de ce qui est admissible dans des rituels d'un événement de cette ampleur.
Le mariage royal se poursuit toute la journée avec le début de la cérémonie religieuse prévue à 13h heure suisse. Les jeunes époux traverseront ensuite Windsor dans un landau pour saluer le peuple. Nous referons un point sur cette cérémonie dans notre édition de 18h. L'actualité sportive du jour se tiendra du côté du Danemark, Bertrand Boya.
Et oui, l'équipe de Suisse de hockey sur glace en découvre à 19h15 avec le Canada en demi-finale des championnats du monde de Copenhague. Les Helvètes chercheront à signer un deuxième exploit 2 jours après avoir sorti la Finlande en quart de finale. En cas de victoire tout à l'heure, la Suisse serait assurée d'obtenir une médaille 5 ans après la breloque d'argent glanée à Stockholm. L'autre demi-finale mettra aux prises la Suède aux États-Unis à 15h15. Toujours en hockey sur glace, le HC Bienne a réalisé un joli coup sur le marché des transferts. Le club zélandais de National League a enrôlé Damien Brunner. L'attaquant de 32 ans a signé un contrat de 2 saisons. Il jouait au HC Lugano depuis 4 saisons. Damien Brunner a aussi joué 135 matchs en NHL avec Détroit et New Jersey. Il a également porté les couleurs de l'équipe de Suisse. Le HCB a annoncé la nouvelle en fin de matinée. L'avant-dernier match du championnat de Première Ligue de football, c'est pour cet après-midi pour les deux équipes jurassiennes. Basse-Cour va défier Münzingen à 16h. Les Vadais sont à la lutte pour éviter la culbute en deuxième ligue interrégionale. Eux qui ont le même nombre de points que le premier relégable. Quel que soit le résultat de la troupe d'Anthony Siruffo, il n'y aura ni sauvetage ni relégation au terme de cette journée. De leur côté, les SR de Lémont, 8e et qui se trouvent dans le ventre mou du classement, accueillent Langenthal à 16h. En deuxième ligue interrégionale, les 3 formations de la région vont suer hors de leur base aujourd'hui. Le leader Bienne rend visite à Pristina Berne, début de cette partie à 15h. Moutier, qui est 6e, se déplace chez le 2e Listal à 16h. Le 7e Taventramland joue sur le terrain de la Lanterne Rouge Berne à 19h. Toujours en football, mais en deuxième ligue, 2 parties ont eu lieu hier soir. Courgenay, qui a gagné 1-0 à domicile face à Courtetel, est 7e du classement et s'est donné un bol d'air en disposant désormais de 5 points d'avance sur la zone rouge. Develier a perdu 2-0 sur son terrain contre Arberg. Les Vadais 10e sont toujours juste en dessus de la barre avec 1 point de plus que le premier relégable Grünstern, mais aussi avec 1 match en plus. En troisième ligue, dans le groupe 8, toutes les équipes ont joué hier soir. L'US Boncourt s'est offert le scalp du leader Hall 1-0. Cette victoire permet au relégable Boncourtois de revenir à 2 points de Chevenay, qui se situe juste au-dessus de la barre. Chevenay qui a perdu 1-0 sur la pelouse de Franche-Montagne. Des Teignons 3e au classement qui talonne d'1 point le 2e Otageois, victorieux 4-0 sur le terrain de la Lanterne Rouge, Claude Dudoux. Diaspora 2014 reste au 4e rang avec le même nombre d'unités que le 3e, grâce à son succès 3-2 à Bure. Pour Antruy et Glovelier, ont partagé l'enjeu 1-1. L'Unier d'Anfreux est allé s'imposer 5-1 sur les installations d'Olympique Faye. Toujours en 3e ligue de football, le FC Moutier a réagi après les incidents du match de jeudi soir à Develier. Le club prévotois a exclu avec effet immédiat son joueur qui a pris à partie l'arbitre de la rencontre. Ceci quel que soit le résultat de l'enquête des instances compétentes de l'AFBJ, l'association de football Berne-Jura. Le FCM déplore et condamne les agissements du sportif. Le club s'est excusé auprès de l'arbitre et a pris de ses nouvelles. Le FC Moutier, qui a communiqué sa position hier soir, ne fera aucune opposition aux sanctions prononcées. La 3e manche de la Coupe des Critériums a souri à un Ajoulo hier soir. Le cycliste Ismaël Roth s'est montré le plus costaud sur le circuit du Folpotat. Victoire au sprint puis 3e place du final. Des résultats qui lui permettent de précéder le Neuchâtelois Carlos Serra et l'Ajoulo Yanis Voisard. Ismaël Roth prend la tête de cette Coupe des Critériums 2018 devant l'Ajoulo Romain Aubert et Carlos Serra. Chez les dames, c'est la Vadaise Sandra Stadelman-Uschi qui a encore triomphé. 2e succès succès en trois courses pour elle. La cycliste de Courtetel a devancé la Julotte Anne-Françoise Gallardo-Christ de 18 secondes et la Vadaise Nadine Tandon de 21 secondes. Sandra Stadelmann-Uschi mène le bal au classement général devant la Vadaise Nathalie Stelet et la Julotte Michael von Kennel. Les cavaliers jurassiens Alain Juffert et Steve Guerda n'ont pas réussi à prendre part au barrage du Grand Prix du CSI 5 étoiles de La Baule hier en France. Avec son cheval Ramanshof, Alain Juffert s'est classé au 16e rang en saut d'obstacle après avoir écopé de 4 points de pénalité. Dans le même concours, Steve Guerda a fini 28e avec sa monture Alamo en raison de 8 points de pénalité.
Quant à l'actualité musicale, on sera avec James Arthur. Les nuages et les orages viendront taquiner le soleil cet après-midi. Les températures sont de saison, jusqu'à 16 degrés à Tramelan, Tavanne, Saint-Imier, jusqu'à 20 degrés à Moutier et jusqu'à 19 degrés à Bienne et La Neuville. Et pour la suite du week-end de Pentecôte, on vivra au rythme des nuages éclaircis et des orages, avec des maximums de 18 à 23 degrés et des minimums entre 8 et 11 degrés.